la criminalité, le meurtre, le cauchemar. Nous connaissons beaucoup d'affaires qui ont marqué nos mémoires par leur cruauté, par l'horreur des actes commis. Revenons sur ces affaires qui ont marqué la Belgique. Ce podcast va parler de sujets prenants. Âme sensible, je suis au regret de vous déconseiller de m'écouter. Parce qu'être un tueur en série, ce n'est pas uniquement sévir dans un seul pays. Dans cet épisode, on va traverser trois frontières, celle de la France, l'Espagne et la Belgique. Si vous êtes adepte des voyages, des auberges et surtout des gîtes, restez là, vous allez frissonner et peut-être penser à cette histoire avant de réserver vos prochaines vacances. Cette histoire commence dans le sud de la France, plus précisément dans la Drôme, dans un village du nom de Boucher. Véronique Crétaz, 57 ans, est l'heureuse propriétaire du gîte des Grands Bosquets depuis déjà quelques années. Elle y reçoit des habitués, des étrangers venus de loin ou de plus près. Elle ne porte aucun jugement sur les voyageurs qui séjournent chez elle. Et justement, elle est plutôt agréable et partage des moments sympathiques avec eux. Véronique a les cheveux brun foncé, courts, elle est souriante. Elle partage sa vie avec une femme du nom de Christiane. Les jours sont beaux dans le sud et la vie est plutôt douce pour les deux femmes. Le 11 octobre 2011, le ciel est dégagé, les températures sont douces pour cet automne. Véronique décide d'inviter pour l'apéro un couple de Suisses qui séjourne dans son gîte. Ce couple, elle les connaît bien. Ils viennent régulièrement, ils sont presque comme des amis maintenant. Vers 18h30, ils se rendent au lieu du rendez-vous, mais personne n'est là. Véronique est en retard. Étrange. Ce n'est pas dans ses habitudes. Au bout de quelques temps d'attente, ils se mettent à la chercher, mais elle est introuvable. Sa voiture n'est plus là. Et poser un lapin à ses invités, ça ne lui ressemble vraiment pas. Le couple se pose énormément de questions et le mari décide vers 19h d'entrer dans l'appartement de la dame. Il entre, jette un coup d'œil à droite, à gauche, il avance dans la cuisine, puis continue jusqu'au cellier. Et c'est là qu'il découvre avec stupeur Véronique qui gît dans une mare de sang. La scène est horrible, la police est immédiatement prévenue et les enquêteurs sur place constatent le vol de la voiture, un lacet de chaussures ayant servi à étrangler Véronique à quelques mètres de la maison, l'absence des cartes de crédit de la femme, et c'est tout. Véronique s'est fait surprendre dans son propre logement, le meurtrier l'a étranglée et lui a tranché la carotide, ce qui l'a rapidement tuée. Il est ensuite parti avec les cartes bancaires et la voiture de la victime, sans laisser de traces, ou presque. L'enquête commence et c'est Christiane, la conjointe de Véronique, qui est interrogée quelques jours après le drame. Et oui, vous savez que les premiers suspects sont très souvent les partenaires des victimes, car ce sont aussi très souvent les meurtriers. Mais là, impossible. Christiane était en voyage en Suisse, elle ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Par contre, elle se souvient de quelque chose d'inhabituel, survenu quelques semaines auparavant. Il y a un homme qui avait séjourné au gîte. Il était arrivé avec un sac à dos, habillé comme un militaire, et avait déjeuné avec les deux femmes. Il s'est décrit justement comme un ancien militaire, il disait être belge, et il n'est resté que quelques jours au gîte. Il avait demandé à Véronique de lui prêter 100 euros, chose qu'elle a fait avec confiance, puisqu'il lui avait laissé sa montre en échange pour prouver sa bonne foi. Mais juste après ça, il a disparu avec un vélo qu'il a volé au gîte. Les enquêteurs décident de vérifier le carnet de passage de Véronique, qui avait noté avec soin le nom de l'homme, Étienne de Drogue, à côté d'une photo de son permis de conduire et d'une phrase.
Parti sans payer.
L'homme n'a pas réglé sa dette pour les jours qu'il a passés sur place et doit à Véronique 400 euros. 4 jours après le meurtre, la voiture de Véronique est retrouvée sur le parking de la gare. Et là, bingo, l'ADN du mystérieux militaire belge est retrouvé sur le volant. Et oui, le présumé meurtrier de la patronne des Grands Bosquets n'était pas si discret et méticuleux qu'on peut le croire, puisque son ADN était rentré dans les banques de données à cause d'une plainte quelque temps plus tôt. Il avait causé des problèmes dans un hôtel et le gérant avait prévenu la police qui ont relevé directement son ADN. Le jour même du meurtre, la carte bancaire de Véronique est utilisée dans plusieurs magasins de Montélimar. Cet homme, Étienne de Drogue, est identifié, mais très difficile à appréhender puisqu'il n'a qu'un sac à dos, pas de téléphone, il n'est même pas de nationalité française, alors pour suivre ses déplacements, les enquêteurs regardent les paiements avec la carte bancaire volée. Ils se rendent vite compte que de Drogue est en train de quitter la France. Il part en direction de Valence, alors un mandat international est émis contre lui. Ce jeu de piste va durer 7 longues semaines. Il passe d'hôtel en hôtel sans régler ses notes, et ça depuis bien avant le meurtre de Véronique. Il se présente sous plusieurs identités. Un jour, il s'appelle Pedro, il est photographe. L'autre, il est un riche homme d'affaires. Puis ensuite, il devient un ex-militaire. Bref, les enquêteurs constatent rapidement qu'il est un homme manipulateur ou peut-être simplement un homme perdu entre toutes ses identités. Sa trace est perdue en Espagne au début novembre 2011 et je vous reparlerai de son séjour espagnol un peu plus tard. On va d'abord revenir sur la date du 2 décembre 2011. Nous sommes à Louvain, en Belgique. Dans un commissariat de la ville, les policiers voient entrer un homme grand, bâti, le visage fermé. Il se présente sous le nom d'Étienne de Drogue et il vient avouer un double homicide. Il raconte être rentré d'Espagne à Grand-Voire dans les chambres d'hôtes de Martine et Mia Blankertz, âgées de 71 et 69 ans. Le couple de retraités avait accueilli Étienne de Drogue pendant 4 jours d'une manière qui l'a marqué.
Ils ont été très gentils avec moi, un peu comme des parents. J'ai même aidé Mia à transporter du bois car elle avait mal au dos.
Le 20 novembre 2011, il veut voler la voiture du couple, mais a peur de se faire surprendre. Alors, il décide d'étrangler le mari, Martine, au sous-sol. Puis, il passe à Mia, il pend la femme avec un lacet à la porte de l'armoire de sa chambre à coucher. Après ça, il vole la voiture du couple, comme il l'avait prévu initialement, et prend la fuite. Les corps des deux personnes seront retrouvés le 20 novembre en fin d'après-midi, et l'enquête débute à ce moment-là. Étienne de Drogue est le suspect numéro 1, puisqu'il est le dernier client à être passé dans le gîte et parce qu'il a été aperçu avec des jeunes au bord d'un terrain de foot du coin en train de boire des bières avant de disparaître jusqu'au jour de ses aveux, le 2 décembre 2011. Mais qui est Étienne de Drogue ? Le routard du crime n'a pas le meurtre dans les veines depuis toujours. Du moins, il a mis un certain temps avant de passer à l'acte pour la première fois. Son enfance n'est ni heureuse ni vraiment malheureuse. Il naît en 1971 dans la province belge du Limbourg. Il grandit avec un père mineur de fond. Il n'est pas très sympa et il est même un peu violent et autoritaire. Étienne n'était pas à l'aise avec lui et ressentait la grande froideur qu'il avait à son égard. Sa mère était tout son contraire. Elle s'appelait Anna, elle était infirmière et elle était une mère très douce et patiente. De Drogue et elle étaient très complices. Il lui rendait visite souvent en grandissant. Dès qu'il avait un problème, c'était chez elle qu'il allait trouver du réconfort. Au niveau de sa vie sociale, il a un travail, une femme et même une fille. Mais cette stabilité se brise en 2006 lorsqu'il divorce avec sa femme et ne lui reste plus que son pilier, sa mère. C'est en 2007 qu'Anna meurt d'un cancer. Elle n'avait que 59 ans. C'est là que la période d'errance commence pour Étienne de Drogue. Il tente d'abord de mettre fin à ses jours, sans succès. Alors, il décide de partir, de prendre la route pour passer de petit boulot en petit boulot. Le magistrat français Jacques Dallest était avocat général lors du procès et il explique son opinion sur le basculement violent du meurtrier qui était à la base un homme stable. On l'écoute au micro d'RTL.
Une fracture familiale, personnelle peut être le déclencheur d'un parcours particulier. Alors, il faut néanmoins regarder quelle est la personnalité profonde de cet individu. Des drames familiaux, on peut tous en vivre. Lui, ce basculement, on a un peu de mal à le comprendre, d'autant qu'il est plutôt jeune au moment des faits. Il a 40 ans, ce n'est pas un jeune enfant, ou un ado, ou un jeune homme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une personnalité, et moi c'est ma conviction, très dure de cet individu, qui l'a amené dans cette errance, qui l'a amené à commettre ces différents crimes en un court temps, effectivement, assez court.
Pour continuer l'histoire, quelques temps après avoir pris la route, il débarque en France, dans la Drôme, vers juin, pour faire d'autres petits boulots. Et il va faire la cueillette des fruits, puis il travaille dans les vignes. Et c'est à ce moment qu'il va séjourner chez Véronique, au gîte des Grands Bosquets, et qu'il va commettre l'irréparable. Vous connaissez déjà la suite. On va parler des procès, car il est condamné et par la France et par la Belgique pour les 3 crimes qu'il a commis. Son procès commence en Belgique, au tribunal d'Arlon, le 7 novembre 2014. Il a reconnu le meurtre des 2 retraités et est condamné à vie. Des preuves supplémentaires sont ajoutées à son dossier, comme un message envoyé à sa nièce la veille de se rendre au poste de police. Il disait
« Je ne me reconnais plus. Je ne mérite pas d'être appelé comme un frère. J'ai fait des choses plus sérieuses que Ronald Janssen. »
Si vous ne connaissez pas Ronald Janssen, un épisode sur son histoire est disponible sur ma chaîne. Revenons au procès. Durant celui-ci, il est interrogé au sujet du meurtre de Crétaz, mais il clame son innocence. Il sera tout de même jugé en France, en 2017, et il écope d'une peine de 30 ans de prison. Clamer son innocence, c'est une chose, mais son ADN a été retrouvé aux 4 coins de la scène de crime. Pendant le procès, il a cité le nom d'une personne, un certain Adam. D'après De Drogue, c'est lui qui aurait tué Véronique Crétaz. Adam était d'origine tchèque. Il était à ce moment-là le compagnon de route d'Étienne De Drogue. Le problème étant qu'il est impossible d'identifier cet homme. La seule pseudo-preuve qui coïncide avec son discours, c'est les images de surveillance d'un guichet de banque. Un homme aurait tenté de retirer de l'argent avec la carte bancaire volée de Véronique Crétaz. Cet homme, impossible à identifier, serait d'après De Drogue ce fameux Adam. Mais il est peut-être aussi Monsieur Tout-le-Monde qui aurait trouvé une carte bancaire par terre. Est-ce que cet Adam est réel ou est-ce que cet Adam ne serait pas une invention, le reflet de son côté maléfique? On n'aura jamais vraiment la réponse et dans tous les cas, l'ADN de De Drogue a prouvé sa culpabilité pour le juge. Durant son jugement en France, il montre une personnalité très froide, avec un visage fermé, il n'éprouve aucune compassion ou émotion par rapport à la victime. Il s'est enfermé dans une coquille en niant les faits, il n'a jamais voulu admettre sa culpabilité et l'avocat général avait d'ailleurs prévenu les jurés qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, car en face d'eux, c'était un véritable psychopathe dangereux qui ne parlerait pas. Un peu plus tôt, je vous ai parlé d'une de ses haltes en Espagne, alors je peux vous parler d'un dernier meurtre qui se serait passé entre celui de Véronique Crétaz et ceux de Martin et Mia Blankertz. Le 16 novembre 2011, le corps de Tomás Martínez López, 76 ans, est retrouvé près d'un parc naturel en Andalousie. Sa tête a été fracassée avec une grosse pierre et sa voiture a disparu. Les enquêteurs espagnols la retrouvent le 10 décembre à la Jonquera, c'est-à-dire à la frontière entre la France et l'Espagne. À l'intérieur, l'ADN d'Étienne De Drogue est retrouvé. Mais il va vite se défendre en disant que l'homme l'avait pris en stop, mais d'autres preuves vont être retrouvées chez Tomás Martínez López comme une facture au nom de De Drogue dans sa poubelle. Les dates correspondent bien, De Drogue travaillait à Almería, près du parc où le corps a été retrouvé lorsque Tomás est décédé. Bref, si je ne vous parle que maintenant de ce meurtre, c'est parce qu'à l'heure actuelle, aucun jugement n'a été rendu par la justice espagnole. Récemment, en 2022, il a été interrogé par le juge d'instruction espagnol, mais il tient sa version et les preuves ne sont pas assez conséquentes pour l'arrêter. Mais le fonctionnement de ce meurtre reste très similaire aux autres. On écoute Jacques Dallest à ce sujet au micro d'RTL.
Oui, encore une fois, une victime de rencontre, quelqu'un qui n'est pas tout jeune, quelqu'un qui est vulnérable, qui a un bien, un véhicule avec lui, un peu d'argent, une carte bancaire, c'est-à-dire un peu les cibles premières de Drogue, et qui sans doute a beaucoup de mal. Je crois que dans l'affaire belge, beaucoup d'éléments l'accusaient. Il aurait été difficile pour lui, d'échapper à la condamnation. Il a dû considérer que pour la France, le crime commis en France et celui commis en Espagne, là, il y avait des éléments plus discutables. Et voilà, je crois que c'est cette volonté de s'enfermer dans son discours, dont il ne sortira jamais.
Au final, Étienne De Drogue n'aura reconnu que deux meurtres, celui des deux retraités en Belgique. Il dira d'ailleurs éprouver des regrets pour ce meurtre, mais ce n'est pas pour ça qu'il en profite pour avouer les deux autres. Il reste sur ses positions, il n'a pas tué Véronique Crétaz ni Tomás Martínez López. Encore aujourd'hui, De Drogue purge sa peine à la prison de Lantin en Belgique. Il dit qu'il regrette le meurtre des deux retraités, Martine et Mia, mais ne veut pas reconnaître sa culpabilité pour les deux autres victimes qui ont, d'après lui, comme par hasard, croisé sa route. C'était la terrible histoire du tueur d'Égypte, créée et réalisée par Emma Villot. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Si vous avez loupé un morceau de celui-ci, il reste disponible sur rqc.be ainsi que sur Spotify. A bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.